Apéro spécial Nuggets en vacances.
Mince alors. Franchement, oh, ils ont perdu 4-2. Ils sont éliminés. Oh, oh, oh. Mais c'est une très mauvaise série des Nuggets.
Oh, oh, oh. La meilleure équipe de basket a remporté cette série.
Alors, sans problème.
Point barre.
Au-delà de ça, les Wolves ont joué comme la meilleure équipe de basket. Ah. Et il y a un sentiment vraiment de gâchis et de déception assez énorme côté Nuggets. Même si on va évacuer tout de suite, c'est réel. Il manquait depuis deux matchs des gros joueurs, des joueurs importants. On va y venir sur les Wolves. Hein,
mais... De part et d'autre.
Oui, non, mais côté Nuggets, dans l'équilibre de leur défense et tout, je suis tout à fait prêt à entendre que l'absence d'Aaron Gordon joue beaucoup, que l'absence de Peyton Watson pour apporter un peu de profondeur et de qualité joue beaucoup et tout. C'est absolument indéniable. Sauf que là, pas de peau. Bah, il manquait Anthony Edwards, Dante DiVincenzo et Ayo Dosunmu, là, au match 6. Pardon. Et en plus de ça, tout au long de la série, au-delà même des absences, c'est-à-dire que même en début de série, quand il y avait des effectifs au complet ou quasi,
c'était pas Jojo.
Il y avait pas photo en fait. Non, mais en fait, il y avait pas photo en fait.
Ça fait quelques saisons que quand on se pointe en preview avec les Wolves au premier tour des playoffs, on a tendance à dire qu'ils vont sortir. Et les Wolves nous font mentir.
Ah oui, mais là, honnêtement.
Mais elle est belle.
Premièrement, elle est belle. Deuxièmement, on va avoir le temps de reparler des Wolves, puisque du coup, il va y avoir une preview à faire.
Oui, parce que.
Ah bah oui, non, mais.
Pour
clair.
Ceux qui ne l'ont pas, victoire des Wolves, élimination des Nuggets. Voilà.
Oui, voilà, Bastien et Bastien et ses Spurs attendent maintenant, dorénavant, tranquillement, les Wolves. Ça va commencer dans la nuit. On regardait ça avec Bastien dans la nuit de lundi à mardi prochain. Ça commence
tout à fait. On va avoir donc pas de Game 7 entre les Nuggets et les Wolves. La série qui va démarrer à San Antonio ce lundi soir. On fera une preview là dans quelques heures pour basculer tout de suite sur cette série.
Parce que on va pas traîner. Rudy, on va préparer un peu ça. Puis on va vous donner notre avis sur cette série.
La possibilité qu'Anthony Edwards revienne en cours de demi-finale, pas de Dante DiVincenzo, voilà. Que se passe-t-il avec Ayo Dosunmu, tout ça. On va
Est-ce
faire
que
tous
Terrence
les
Shannon Jr. va être le meilleur arrière de la série. Bref, ce genre de questions.
Tout à fait.
Mais concrètement, et bien sûr qu'on va donner toutes leurs fleurs aux Wolves, notamment lors de la preview ou dans d'autres occasions et tout.
Exceptionnel.
Mais là, le sujet, c'est... Tu sais quoi ? Là, tu viens de dire qu'on avait sous-estimé les Wolves. Certainement. Certainement. Mais alors moi j'avais surestimé de
Nuggets.
Fou les Nuggets.
Ouais,
ouais. Non, vraiment.
Le caca culotte.
Genre fort.
Fâche.
Et Nuggets, ouais. Encore plus quand il y a les blessures qui arrivent et qui sont menées 3-1 et qui prennent le 5 pour revenir à 3-2. À titre perso, extrêmement déçu et surpris qu'il n'y ait pas un Game 7.
Alors là, vu la configuration,
on t'enlève Dosunmu en plus.
On t'enlève en plus Dosunmu. Ils ont fait, attends, on vous enlève même Dosunmu. Tu peux pas gagner ce Game 6 à Minnesota, on l'a dit.
T'as un alignement de planète pareil, ouais. Et tu n'en profites pas. Donc là, il y a des défaillances.
Ouais, j'ai prévu le lance-flamme.
Mais il y a des défaillances évidentes, criantes, vous appelez ça comme vous voulez, que les Nuggets n'ont absolument pas su surmonter.
Oui.
Et qui sont. Du coup, c'est très bien qu'ils soient sortis. Parce que ces Nuggets-là se seraient fait hacher menu comme les Blazers par les Spurs. Haché menu comme les Blazers par les Spurs.
Alors,
si tu joues comme ça contre les Spurs, tu te fais autant défoncer que contre les Wolves. Des Wolves, je rappelle, qui viennent de jouer deux matchs sans Anthony Edwards, sans Dante DiVincenzo. La nuit dernière, Chris Finch, qu'est-ce que tu veux, il était le dos au mur et tout. Il a dit, bon, Mike Conley, s'il te plaît, voilà ce qui te reste dans les papates, t'es titulaire. Tiens, comment tu t'appelles déjà ? Ah oui, Terrence. Tiens, viens, Terrence. T'es titulaire.
Terrence et Philippe, allez-y jouer.
T'es titulaire.
Ouais,
il avait joué combien de minutes,
super
Terrence Shannon Jr. depuis le début de la série ? Pas grand-chose.
Pas assez.
Certainement pas assez, mais c'est pour dire et tout. Et de l'autre côté, il y a des vétérans. Jaden McDaniels, Rudy Gobert, Julius Randle, Nazrid, le front de courte, qui, eux, se sont sortis les doigts, ont donné le ton tout de suite et ont envoyé du sale au moment où il fallait, sans jamais rien lâcher, avec une... On va y revenir, une extrêmement bonne défense contre laquelle l'attaque des Nuggets n'a jamais su trouver. Non mais attends, un truc de fou quand même.
Pourtant, en face, il y a 4, 5, 6 joueurs, je dirais, qui ont plus de finales NBA que l'intégralité des Wolves en face.
C'est pas un problème d'expérience.
C'est même pas un problème d'expérience.
Ah non, ça on est bien d'accord.
Denver, tu te ramènes. Déjà, on avait vu les deux premiers matchs. Le Game 1, c'était géré, on était à Lille. On avait vu Minnesota en prendre un. Après, ça a été foutraque à Minnesota parce qu'il y a eu le Ohio Dosunmu game, il y a eu le game 3 qui était bien géré, mais t'avais, c'était cataclysmique parce que à la fois t'avais Minnesota qui gagnait, mais à what cost, parce que tu perdais Anthony Edwards, Dante DiVincenzo. Réaction des Nuggets comme il faut au 5. Moi j'avoue, j'étais comme toi, je me disais bon, on va voir. Je sais plus ce qu'on s'était dit sur la possibilité d'un game 7, mais je me disais attends, normalement,
tu trouvais
Denver,
ça... ouais.
Il y avait la plupart des éléments pour faire un match d'équipe expérimenté, collectif, du mieux possible défensif, en attendant de voir s'il échoue 30, avec le meilleur joueur de la série de loin, sur le papier, le plus impactant offensivement, avec des mecs qui ont tout connu en termes de match-up, donc c'est pas que Jokic, c'est Murray, c'est Christian Brown, c'est Bruce Brown, c'est Cameron Johnson qui a fait de la finale NBA, Valanciunas il est pas né avant-hier, Tim Hardaway, enfin genre normalement, t'as les mecs qui savent à peu près comment faire dans ce genre de situation, ils ont tout connu ces Nuggets.
Je suis d'accord.
De la merde. Ce match est une atrocité au panthéon de la franchise de Denver. C'est tout en haut. Je sais même pas c'est quoi le pire entre ça et leur match 7 il y a 2 ans face aux Wolves, tu sais, qu'ils perdent en demi-finale là. Où ils sont en train de mener et Minnesota revient, il y a des fadeaways.
Même l'année dernière, ça. Bon, après c'était contre le Thunder.
Et après c'est le Thunder en demi et tout,
ouais,
c'est chaud.
Mais d'accord, c'est quand même un Game 7 où ils ont quand même un peu craqué aussi.
Bien sûr.
Mais cette différence, c'est vrai que ce Thunder là, ils l'ont déjà montré à maintes reprises, ils peuvent te faire craquer, ils ont vraiment tout pour.
Là, c'était l'équipe F des Wolves.
Non,
à qui on a
c'est
donné...
pas vrai.
Non,
c'était
mais,
pas
ce
l'équipe,
dire
F.
Par l'équipe F. C'est
mais
que
je vois ce que tu veux dire.
Tu avais énormément d'absents à Minnesota.
Oui.
Et tu énormément d'absents. Pas. Moi j'entends encore une fois Aaron Gordon.
Non, c'est des absents importants.
Oh, t'avais 2 titulaires qui sont absents du côté de Minnesota. T'as le meilleur joueur de Minnesota qui est pas là.
C'est ça surtout, le meilleur joueur.
C'est le
meilleur
joueur de Minnesota qui est pas là. Il y a pas Anthony Edwards. Et derrière, comme t'as dit, vas-y, on va mettre Terrence Shannon. On va dire à Bones Island, vas-y, essaye de mettre du rythme et de faire en sorte de mettre de la percussion pour punir ces Nuggets.
En fait, il y a vraiment
trop de trucs.
Il y a les Wolves qui ont abordé ce match 6
parfaitement
d'un point de vue et tactique et à partir du moment où il y a quelques tirs qui rentrent, je pense au gros tir de Randle là, qui provoque un temps mort, je pense à Terrence Shannon qui rentre assez bien dans son truc et tout, et tout de suite le public qui s'y met et tout.
Il y avait une stratégie, on va en reparler, hein, mais il y avait une stratégie très claire du côté de Minnesota pour bien démarrer le match.
Oui, mais genre, en quoi c'était une surprise ? C'est pas genre une stratégie innovante.
Ouais, tout à fait.
Genre stratégie, bien démarrer les matchs. Et quoi, Denver, ils étaient pas prêts à ça ? Non, mais ce que je veux dire, c'est pas pour discuter de l'analyse. C'est juste à quel moment Denver pouvait s'attendre à autre chose. Donc, déjà, c'est le premier truc. Parce que quand tu regardes le match, t'as vraiment l'impression qu'ils découvrent, toi, on a parlé d'expérience, tout. Non. Donc, ils se font surprendre. Ils se font prendre.
Je pensais que Minnesota allait perdre.
Dans l'énergie et tout. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, on est au match 6 de la série. Les Wolves continuent le même système défensif. Pas exactement le même, il y a eu quelques variantes, mais avec une grande ligne qui est que, tu sais quoi ? Nous avons un des meilleurs défenseurs de la NBA. On va l'envoyer. Oui, Nikola Jokic va faire des stats, va scorer à des pourcentages tout à fait corrects, sauf les 3 points, j'y reviens tout de suite. Mais je veux dire, sinon, Jokic...
Sur ce match.
Oui, non, mais même sa série.
Non,
hein,
non, la série de Jokic, non.
Non, je te parle des pourcentages. Je te parle pas de l'efficacité, je te parle pas de l'impact.
De les pourcentages de Jokic. Il a un énorme cran en dessous de son efficacité habituelle.
Tout à fait, mais c'est lui quand même le meilleur joueur offensif de son équipe.
Ah oui, bien sûr.
C'est ça que je veux dire. Donc, il diminue son impact. Il diminue son impact par rapport à la saison régulière qui a un impact extraordinaire, qui là devient un impact... bon, mais voilà quoi. Bon,
sous
quand
ses
même.
Standards.
Parce que, ah bah largement, c'est même pas sous ses standards, c'est très très loin de ses standards. Et là-dessus, il faut saluer le travail évidemment de Rudy Gobert qui s'est retrouvé régulièrement en 1 contre 1, qui n'a pas craqué. Et Rudy a fait un truc qui était pas forcément prévu dans le playbook des Nuggets. C'est là où je veux en venir, c'est que Rudy a fait un truc, c'est-à-dire qu'il a pas trop laissé le 3 points à Jokic.
Non.
Pas trop, même pas du tout. Il les a beaucoup contestés. D'ailleurs, le pourcentage de Jokic est horrible à 3 points. Aussi parce qu'il en a raté des ouverts, mais aussi parce qu'il en a pris des pourris avec un Rudy Gobert qui te gêne et qui ne t'est pas dedans. Le but du jeu était un peu de le couper, de l'empêcher de contrôler le match et tout. Bon, vous allez me dire, oui, le mec tourne quasiment en triple-double quand même. Ok, mais c'est pas vrai. Non, mais c'est pas vraiment le sujet. Le vrai sujet, c'est que on arrive là à un Game 6. Au Game 5, c'était déjà la même chose, mais comme ils l'ont gagné, les Nuggets, on en a moins parlé. Mais même stratégie défensive, et Denver, ils continuent à jouer pareil.
Il n'y a pas d'ajustement. On a vu un inversé.
Moi, c'est ça qui me flingue.
Alors, je
le
vois.
Plus.
Oui, bah, je vois. Moi, il y a un autre truc qui me flingue encore plus. Mais je suis d'accord sur le niveau purement tactique offensif de Denver.
Qu'est-ce que c'est que ça?
C'est ce qui fait que notamment Adelman, bon bah je pense que la plupart des fans de Denver disent frérot il faut prendre la porte parce qu'il n'y a eu aucun ajustement tactique par rapport à ça. On n'a vu aucun inversé pick and roll pour Jokic alors que les seules ou deux fois où ça a pu être le cas, il est passé devant Rudy Gobert, il a pu finir à l'arceau.
Oui, c'était
juste une ou deux fois.
En gros, il fallait utiliser Jokic un peu plus softball et tout. On dit des évidences qui a... En tout cas, ça n'avait pas l'air si évident que ça pour Adelman et son staff.
Tout à
visiblement.
Fait. Le seul truc par rapport à l'entame de match dont je parlais là tout à l'heure, c'est qu'il y a un truc, et moi, on va faire dans l'ordre. Déjà, pardon, mais je le répète, c'est pas Nikola Jokic qui a perdu face au Minnesota Timberwolves, c'est Denver qui a perdu contre Minnesota.
Évidemment.
À la tête de cette franchise de Denver, il y a Jokic. Il y a plein de joueurs qui n'ont pas fait leur boulot. On va s'occuper de Jamal Murray.
Il a pas fait sa série. Il a fait des stats, mais pas sa série.
Nikola Jokic n'a pas fait sa série. Il a été en dessous. Les premières personnes qui viennent me voir.
Il était nerveux.
Les premières personnes qui viennent me voir et qui me disent il a tourné à 25. Stop.
Ok,
regardez
oui,
les
matchs. C'est vrai, mais.
Oui, mais s'il vous plaît, regardez les matchs. S'il vous plaît. Parce que hier soir, numériquement, tu prends la feuille de Rudy Gobert, tu prends la feuille de Nikola Jokic. Le joueur qui a eu le plus d'impact sur ce match, c'est Rudy Gobert.
Évidemment. Sur la série. Sur la série.
Et pourtant, il y a des gens qui vont me dire oui, mais Jokic tournait à 28, 13, 7 avec un true shooting de machin et ma main gauche et ma main droite. Non. Le meilleur joueur offensif de la planète, un des plus grands génies de notre génération qu'on a classé très très haut, s'est fait caca dessus. Il a été très bien défendu.
Il était nerveux.
Il a pété des plombs et face à Jalen McDaniels et face à Jalen Clark. Il y a plein de mecs qui sont rentrés dedans. Et lui, du coup, il a pété des câbles.
Alors, tu vois. À la limite, vu le caractère qu'il a, Jokic, et qui pète des câbles, qui s'embrouille avec des jets de McDaniels, à la limite, je vais vous dire franchement, là, on en parle. Parce que derrière, il y a de la défaite. Si derrière, il y avait des perfs, et si derrière, il y avait, tu sais quoi, Rudy Gobert, je vais le fumer.
Oui,
faites-moi des
inversés
et tout, j'ai motivé et tout.
Ouais.
Moi, je m'en fous qu'il s'embrouille dans
là,
ces cas-là.
Nul.
Là, le problème, c'est qu'il s'embrouille, il est nerveux, et derrière, Jaden McDaniels, il s'embrouille, il ouvre sa bouche, derrière, il assume.
Ouais, voilà. Bah, c'est ce qui fait que c'est un des plus grands trash talkers, là, et trash talking qui a eu lieu avec.
L'autre, il arrive game 6 à la maison, il a fait un match. Genre,
c'est
quoi
match
il a C'est qui a besoin d'Anthony Edwards quand tu as Jaden McDaniels, en fait?
Et c'est tout à fait.
C'est ça la question.
Si, bien sûr. Et c'est là juste où moi, sur Jokic, je peux comprendre, encore une fois, qu'il y a des gens qui sortent des stats, mais juste pareil. Là où il faut regarder les matchs, s'il vous plaît, et refaites-vous ce Game 6, c'est qu'on en parle depuis des années, c'est une évidence, c'est un problème. On était tous les deux sur le canapé lorsqu'il y avait du match face à la Finlande, avec la Serbie. Le mec, il a un gyrophare sur le crâne, et quand je dis qu'en début de match, Minnesota a attaqué fort, et que comme tu l'as bien dit, ça devrait être une évidence, qu'est-ce qui s'est passé? Terrence Shannon, il rentre sur le parquet, il a une indication, attaque le 15 avec le maillot blanc. Attaque. Si tu passes la première ligne, qui en gros, Jamal Murray, j'ai pas fait l'effort. Tim Hardaway Jr., j'ai pas fait l'effort. Christian Brown, j'ai pas fait les efforts. Derrière, tu sais que t'as l'arceau. T'as l'arceau avec une canette, avec tout ce que tu veux. Un testi crousti, t'as tout
mais
à manger.
Je comprends pas ton point. Alors,
mon point, c'est juste que Jokic, à un moment donné,
oui,
quand on
okay.
entend des déclats comme celle de Victor, comme celle d'autres garçons qui disent que le meilleur joueur de la planète offensivement c'est Jokic, et ben faut aussi dire que Jokic il s'est fait malmener défensivement et c'est très compliqué quand tu n'as pas Aaron Gordon et Peyton Watson parce que ce sont deux joueurs hyper athlétiques qui viennent aider là-dessus,
qui viennent fermer hein, ça c'est sûr
absolument
pour le coup c'est des absences qui
ce
se sont
vues absences énormes.
Ça s'est vu très très fort
absolument et le mec a des responsabilités offensives de fou mais juste c'est le même sujet aussi c'est que à quoi ça sert de faire 28 points 14 rebonds 13 passes 60% au tir si de l'autre côté Terrence Shannon Jr. et Julius Randle et compagnie se permettent de pouvoir aller à l'arceau parce qu'ils ont très très bien attaqué le match. Ce n'est pas la faute que Jokic. Je dis juste qu'un des éléments par rapport à cette franchise, c'est que tu sais comment tu dois mieux entourer Jokic. Tu sais comment tu dois
faire.
Mais
ils les ont les joueurs. Ils sont absents.
Et là ils sont blessés.
Ils les ont. Là on va pas commencer à critiquer le recrutement. Denver à l'équipe.
Moi je veux bien en discuter.
Oh bah pas moi.
Je veux bien en discuter.
Il faut Aaron Gordon. Son absence est évidente.
Cette série montre que Aaron Gordon est incroyablement important.
Voilà. Pourtant ils l'ont dans l'équipe. Je veux dire c'est pas comme si on disait putain il leur faut un ailier défensif. Ils en ont deux.
Il faut une première couverture défensive. Si ta backline c'est Jokic notamment, qui est un, je rappelle, génie offensif, qui est capable de faire des bonnes lectures défensives. Juste, si c'est ça, notamment ta situation, tu es dans l'obligation d'avoir des joueurs autour qui sont encore meilleurs. C'est ce qui fait que la série de Spencer Jones, elle est formidable. C'est ce qui fait qu'on a des gars qui, lorsqu'ils aident défensivement, deviennent fondamentaux. C'est ce qui fait qu'on s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe avec Christian Brown? Parce que l'année dernière, on le voit.
Qui sont les joueurs? Les joueurs ont peut-être pas été au niveau, ou alors ils étaient absents pour blessure, mais ils les ont. C'est pas un problème de recrutement.
Je veux bien l'avis des fans.
Moi, je veux bien que tu me dises qu'est-ce que tu voudrais comme joueur à la place de qui?
Si tu te retrouves.
Tu voudrais quel profil à la place de qui?
Si tu te retrouves dans une situation où, par exemple, un Tim Hardaway Jr. qui est capable de très 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 bien shooté, mais ouais, si ça rentre pas, tu défends pas bien, tu attaques pas bien, okay, ça devient jouable.
Mais t'as Bruce Brown, c'est un autre profil qui défend mieux normalement.
Qui est censé mieux défendre.
Mais je veux dire, le recrutement à la base, on est tous d'accord. Au moment du recrutement cet été, on est tous là en train de dire putain, l'été de malade de Denver. On l'a tous dit ou pas ?
Ils ont mieux recruté offensivement, notamment. Mmh. Et Denver, lorsqu'on a abordé les playoffs, on a dit où est-ce qu'ils sont capables de step up défensivement. Et évidemment que les absences de Gordon et Watson, elles aident pas en sens. Mais Jamal Murray, il s'est fait cibler de fou malade.
Oui,
aussi.
Oui, non, mais attends.
Parlez de Jamal Murray.
Jamal Murray, donc tu veux mettre un meneur défensif à la place de Jamal ? Parce
non
que je t'assure, je m'attendais pas du tout à ça. Pour moi, Denver, en défense, il n'y a pas ce qu'il faut et tout. Et on peut en expliquer une bonne partie par les absences de l'aile et les sous-performances de Christian Brown, ok ? Une bonne partie. Moi, ce qui me travaille le plus, c'est genre, c'est quoi ce merdier ? Ok, Minnesota défend bien, mais genre, ils ont un backcourt Terrence Shannon Jr. Mike Conley avec leur front de court et ça suffit à tenir Denver sous les 100 points dans un game 6. Ça, c'est pour
et d'aller moi, dans la raquette aussi de l'autre côté.
Ben bah ouais, pour moi les vrais sujets, ok, Jamal Murray et Jokic sont des joueurs ciblables, sont des joueurs ciblés. C'est pas une nouveauté. Denver a déjà gagné un titre comme ça. Denver a déjà performé lors de playoffs avec ces deux joueurs-là.
Encore mieux.
Et, d'accord, mais là, il y a des joueurs autour dont le rôle est d'être là pour ça, comme dans beaucoup d'équipes. Beaucoup d'équipes performantes ont des mecs qui sont là pour défendre et boucher des trous autour du franchise player ou des gros joueurs qui sont peut-être un peu moins forts en défense. Les Knicks ont ça, les Mavs de Doncic vont en finale comme ça.
On a été mieux entourés aussi, tout à fait.
Ah putain, Aaron Gordon, Peyton Watson, Christian Brown, on était tous là en train de dire c'est parfait, c'est nickel et tout. Tu rigoles ? Aaron Gordon, c'est un des meilleurs à ce truc-là.
Je n'ai pas dit le contraire. Je te dis juste que sur le match
d'hier...
Il
est absent. Il est blessé.
Absolument. Sur le match d'hier, ouais, que tu es censé gagner.
Ah bah oui, non. Mais enfin, en tout cas, que tu as une opportunité incroyable. Ouais.
Où tu as le plus de matériel offensif.
Oui, oui, oui.
Sur le papier.
Oui. Avec c'est très ton bonne attaque qui faillit bien avant ta défense pour moi.
L'attaque faillit. Je pense, moi, à titre perso, qu'il y a eu un très gros problème défensif parce qu'il y a des joueurs qui ont vu qu'en fait il suffisait d'un plan de jeu. Le plan de jeu de Minnesota n'est pas extraordinaire.
Ils n'ont pas le choix, en plus ils n'ont pas Anthony Edwards, donc ils sont réduits dans leur plan de jeu.
Et donc Minnesota hier, c'est pas du génie offensif.
Non,
ce
pas
qu'ils
du
ont
tout
fait.
Mais je dis pas ça.
Et ils ont fait notamment un truc, c'est de profiter de certaines absences défensives.
Voilà.
Évidemment, celle d'Aaron Gordon et Peyton Watson.
Je veux juste revenir au fait que c'est pas un problème de recrutement pour moi. Il y a les joueurs.
Il y a des fans de Denver.
Ouais,
qui
ouais,
viennent.
Bah, il y a des, bah, je ne suis pas d'accord.
Et bah, il y a les avis de tout. Et
tout le monde disait que
ça
avait fait le meilleur été de la ligue. Faut arrêter.
Il y a des fans de Denver qui viennent me voir et qui me disent, j'avoue que c'est un peu compliqué aujourd'hui de savoir. Comment est-ce qu'on va faire avec cette fenêtre Jokic ? C'est-à-dire, est-ce que tu dis juste que c'est une fois comme ça, malheureusement, la faute a pas de chance, c'est parce que Aaron Gordon il est blessé, c'est parce que Peyton Watson est blessé ?
Non, je dis pas ça.
Est-ce qu'il faut regarder ça comme ça et se dire, on remet une caisse dans la machine ?
C'est pas si noir ou blanc. Hein.
Non, tout à fait. Ouais. Mais la question, elle se pose aujourd'hui. Bah. Là, c'est impossible pour Denver d'aborder l'été sans se dire, est-ce que cette fenêtre est toujours la même ou est-ce qu'on change des choses ?
Mais attends. C'est impossible de Denver d'aborder l'été sans se poser des questions, c'est normal.
C'est normal.
Dans ces questions, il y aura une question à laquelle tu peux pas répondre, personne peut répondre, c'est est-ce que si Aaron Gordon et Peyton Watson avaient été en santé, est-ce qu'on passait ces Wolves ou pas parce que notre défense aurait été meilleure ? Tu peux pas y répondre. Je sais pas, moi avant la série, je pensais que oui. Maintenant, il y a eu tellement de blessures, de rebondissements, je peux pas me répondre à ça. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas d'accord avec le côté genre l'effectif ça va pas, il est pas construit comme il fallait. Pour moi cet effectif,
non, c'est pas ça que je dis non plus,
est construit comme il fallait.
C'est pas ça que et je dis, c'est que les, là, ils sont... Pardon, vas-y.
Les défaillances défensives de Jokic et de Murray, parce qu'en plus Murray en attaque, il est pas là. Ouais, Tim Hardaway Jr., putain, c'est un joueur de banc dont le rôle est de shooter. Genre tu le sais quand tu le prends, quoi, tu le prends pas pour défendre. Tu as Bruce Brown pour ça, tu as je sais pas qui d'autre. Moi, tu vois, genre voilà, t'as Spencer Jones. Putain, et ils ont un groupe, ils ont un des meilleurs groupes de la ligue.
Offensivement.
Non. Ils ont un des meilleurs groupes de la ligue au global, tout court. Ils ont un des meilleurs groupes de la ligue. Offensivement, c'est sûr. Et défensivement, ils ont un groupe qui est largement mid-average.
Quand tu te retrouves.
Largement.
J'entends, mais quand tu te retrouves hier soir, par exemple, avec une équipe de Minnesota qui a donc des éléments forts en moins offensivement. Ils n'avaient pas Dante Vincenzo, ils n'avaient pas Anthony Edwards, ils n'avaient pas Yodo Tsumnu. Grosso, il y avait quoi, 50 points en moins ? Allez, grosso.
Oui. Après, il y a Jaden McDaniels qui est en feu.
Tout à fait.
Il y a Terrence Shannon, le jeune rookie qui bouche les trous, qui a du vrai talent offensivement. Attention. Hein.
À partir du moment où tu perds ces joueurs-là côté Minnesota, ils ont été capables, eux, de par la façon dont ils ont construit leur effectif, qui est construit par l'ancien architecte des Nuggets, de mettre en place une fin de série ultra défensive et en espérant voir ce que ça va donner de l'autre côté du terrain.
Voilà. Et ben les Nuggets,
ça
eux...
a été mieux construit. Je trouve qu'il faudrait
tellement
aborder.
Pas d'accord avec ça.
Eh ben j'aimerais que les Nuggets.
Tellement pas d'accord.
Ben, j'entends. Mais moi quand j'entends des fans des Nuggets,
c'est pas du tout le problème de cette série. Hein.
Mais il y a pas plein de problèmes dans cette série. Il y a plein de problèmes dans cette série. C'est juste que évidemment le premier, c'est que Aaron Gordon n'est pas là avec Peyton Watson. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va dire que Denver, à partir du moment où il y a ces absences-là, il ne devrait pas battre l'équipe CD Wolves.
Non mais,
c'est ridicule, ils sont censés les fracasser.
Bien sûr, mais ce n'est pas un problème d'effectif au départ. Au début de la série, quand les effectifs sont complets ou quasi, il y a quand même beaucoup plus de gens qui pensent que les Nuggets sont la meilleure équipe, puisque beaucoup de gens mettent les Nuggets passés, toi, moi compris. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, on a quand même considéré, nous qui regardons du basket toute l'année, on a considéré que les Nuggets avaient une équipe légèrement meilleure. Souvent, c'était des scores serrés de série, des 4-2, des
4-3. Quand je parle effectif, je parle coach inclus. Hein.
Mais bien sûr, non, mais coach inclus si tu veux, mais Chris Finch, on l'a critiqué, on critique plein de fois. Donc pour moi, le vrai sujet n'est pas tout à fait là. On vient de vivre une série de playoffs dans laquelle les Wolves ont su beaucoup mieux et le coach, on peut parler des coachs si tu veux, et, et ils ont su beaucoup mieux exploiter leurs points forts et surtout ils sont arrivés avec un vrai plan de jeu qui a déstabilisé les Nuggets, couper Jokic du 3 points, empêcher certaines passes, essayer d'isoler la relation Murray-Jokic en dribble handoff et tout. Ils ont vraiment proposé beaucoup de trucs défensifs auxquels on pensait que les Nuggets allaient être capables de s'adapter parce qu'ils ont, ils ont à disposition une telle variété de joueurs, notamment sur le plan offensif, que normalement tu te dis putain, franchement ils ont tellement d'options et tout qu'ils vont trouver. Ils n'ont un, pas trouvé. Deux, ils se sont énervés pour des broutilles. Tu vois, ce que je disais tout à l'heure, autant Jokic s'il assurait derrière, je dirais rien, mais là le mec, il va s'embrouiller avec McDaniels parce qu'il met un layup en fin de match. T'as envie de lui dire, gros, fallait te bouger le cul pendant les 48 minutes d'avant pour éviter d'être dans cette situation où McDaniels met un layup alors que le match est fini, tu vois. Genre, et là, les Nuggets ont craqué. Alors, est-ce que c'est le groupe qui était pas prêt psychologiquement? On a un peu du mal à y croire parce que vu l'expérience des types,
vu l'expérience qu'ils ont.
D'accord, mais reconnais qu'ils ont craqué psychologiquement en
premier. Absolument.
Donc, ce que je veux dire, c'est vraiment, j'accepte pas du tout l'argument des effectifs. Pour moi, les Nuggets, sur le papier, ont un effectif à minima aussi bon que les Wolves, voire est meilleur sinon.
La
vraiment.
Seule chose que je dis, Alex, c'est que les Nuggets, que notamment toi, c'est normal, à 100%, voyez champion, se retrouve avec.
Ah oui, bah ça, c'est encore un autre sujet.
Oui, mais attends, se retrouve avec deux absents importants, affronte.
Incapable de réagir.
Une équipe affronte une équipe qui a des absents encore plus majeurs et n'arrive pas à faire le travail.
Bah ouais, mais c'est pas un problème d'effectif, c'est un problème de tactique, de mental,
c'est
de
un problème,
préparation aussi.
C'est un problème global avec plusieurs éléments, dont le coaching, dont la responsabilité des franchise players et dont aussi une partie de recrutement. C'est la seule chose que je dis.
Recrutement, je suis pas d'accord.
Eh ben, j'entends, mais c'est multifactoriel. C'est multifactoriel.
Multifactoriel, mais recrutement n'est pas dedans pour moi. On a tous dit que c'est un été de fou, que c'était complémentaire et tout. On a tous dit ça.
Et on s'est demandé ensuite pendant la série hier ce que ça allait donner. Et Denver, aujourd'hui, il se retrouve dans une situation cet été où tu te dis comment va se passer la suite. Parce qu'il y a plein de gens. On est les premiers à être d'accord sur le génie offensif qui est Nikola Jokic. Il n'y a aucune discussion là-dessus. On vient de voir Jamal Murray nous faire une saison régulière de malade.
Non, pas de malade, de All-Star.
Non, mais c'est
une très bonne saison régulière.
Non, quand je dis de malade, c'est que c'est sa meilleure saison régulière en carrière.
Elle est magnifique.
Niveau All-Star. Bon, voilà, quand je dis de malade,
je préférais qu'il
dire...
ait le niveau All-Star en play-off, par contre.
Je dis de malade, tu dis magnifique. Elle est excellente.
Oui,
tu
voilà, mais je veux dire, genre, c'est même pas un. Est-ce que c'est un top 15 joueur de la ligue? C'est même pas sûr, tu vois ce que je veux dire? Genre,
non, allez, elle est magnifique.
Top 20, quoi, tu vois. Genre,
elle est magnifique. Il met quoi, 25 points de moyenne?
Oh, oui, non,
quand
c'est
les
une saison de All-Star.
Pouvait pas compter sur Jokic, il a été présent. Donc, Murray fait d'ailleurs un très bon game one et après ça a été très compliqué, très très compliqué.
Ah, il fait pas une série de All-Star, hein. Ça,
que
c'est,
ce
on est
soit
bien
défensivement
d'accord.
Comme offensivement par la suite, c'est-à-dire que là sur le match d'hier, offensivement c'est dégueulasse et défensivement il se fait cibler.
Pfiou, c'est chaud, ouais, c'est chaud.
Du coup, ça remet aussi, et je ne fais que citer certains fans de Denver
oui,
sur
oui,
le fait
les
que
fans, mais les fans ils sont frustrés, on les comprend. Hein.
Ah oui, mais du coup je ne fais aussi que entendre et mettre sur la table des sujets de conversation, parce que c'est comme ça on est en débrief à chaud, sur quand les gens regardent ces Nuggets-là et ce qui vient de se passer, qui est un désastre. Est-ce que tu dois continuer avec ce groupe ou faire différemment? Cette question-là, ils vont devoir l'aborder. Est-ce que tu prends le même effectif et tu changes juste de coach? Est-ce que tu changes de coach et tu changes des gros éléments de l'effectif? C'est la seule question que je mets parce qu'il y a une évidence. Après ce qui vient de se passer, tu te fais sortir au premier tour des playoffs dans un tel contexte, j'ai du mal à croire, à titre personnel, qu'on va se retrouver au training camp avec le même groupe.
Eh ben, je trouve ça dommage.
C'est la seule chose que je mets sur la table.
Moi, je trouve ça archi dommage. C'est se voiler la face. Je pense que là, tu changes les role players ou quoi. Ou alors, les gars disent, ok, on pense que le problème, c'est de, on doit changer Jamal Murray, tu vois, genre un vrai. Allez. Et à la limite, je sais pas si je suis d'accord, mais je veux bien entendre et essayer de comprendre l'idée. Mais moi, à titre personnel, vraiment, pour moi, la faillite ne vient pas du tout du recrutement et des profils de joueurs. Mais vraiment pas.
Par rapport à Christian Brown, par exemple.
Il ne fait pas une bonne saison.
Il ne fait pas une bonne série.
Une grosse progression l'année dernière. Là, il n'a pas du tout confirmé. Il est décevant.
Un très gros contrat qui lui a été donné.
Ouais.
Aussi.
Ouais.
On se demande ce que ça va donner par la suite. On est déjà, évidemment, on est à chaud. On est déjà sur beaucoup de gens, que ce soit proche de Denver ou à l'extérieur de Denver, qui se disent que va-t-il se passer autour de Christian Brown. Est-ce qu'on peut ne serait-ce que prolonger Peyton Watson, qui lui était quand même sur une saison là, de négociation contractuelle, avec ce qu'il a montré notamment là, sur la saison régulière.
T'as envie.
Et vu que c'est un des meilleurs éléments athlétiques extérieurs et défensifs de Denver, c'est chaud. C'est très chaud. Donc, ce que je voulais juste dire, c'est qu'en l'état, quand tu es Denver, je pense que personne n'est capable de se dire « moi, j'ai rien à me reprocher ».
Ah ben non.
Management inclus qui est responsable du recrutement. C'est-à-dire, c'est pas « les gars, vous n'avez pas fait les gestes qu'il fallait en juillet dernier, on a applaudi tous les deux le recrutement, on est d'accord ». Ce que je dis, c'est « vu ce qui vient de se passer, tu es obligé d'être en ajustement ».
Tu ne peux pas
juste dire « en fait, c'était la faute à malchance ». Non, ils se sont chiés dessus, les Nuggets. Ça passe par un Game 6 qui est désastreux, où… défensivement, ils ont pris, j'avais l'impression qu'il suffisait que d'un seul truc, et tu utilises souvent cette expression Alex, c'est Alex baisse l'épaule et en fait t'étais dans la raquette.
Ouais,
mais... et tu pouvais avoir soit des rebonds offensifs, soit des lancers, et Terrence Shannon, il a mis des tomards, il a pété l'arceau, a plus quoi savoir en faire, et puis sinon parfois c'était juste Randle qui trouvait ses positions, c'était couteau dans du beurre, dans un match éliminatoire, et donc tu vois c'est marrant, c'est que toi, je suis d'accord sur le côté offensif, il n'y a pas eu d'ajustement. Moi, je suis très frustré par l'aspect défensif de ces Nuggets parce qu'ils savent le chemin pour aller plus loin. Et là, oui, tu n'avais pas Aaron Gordon et Peyton Watson, mais prolonger jusqu'à un Game 7, ça passe par un gros match défensif. Comment est-ce qu'ils n'ont pas pu faire ça déjà de base?
Parce qu'ils n'en ont pas les moyens avec Jamal Murray et Jokic sur le terrain sans leur Gordon Watson. C'est compliqué, quoi. Après, limite, Cameron Johnson et Spencer Jones.
Ah, super Game 6.
Franchement, voilà, exactement. C'est pas eux qu'on va commencer à acheter des pierres.
Non.
Christian Brown, c'est vraiment pas terrible. Donc, que des questions se posent autour de lui.
On peut même dire c'est nul.
On peut tout à fait l'entendre parce que du coup, on va se dire le mec à la base, il est là pour être le gars athlétique et tout, qui prend le back court, le meilleur back court adverse et qui du coup évite certaines tâches à Murray. Là. Il n'a pas réussi pendant la saison, il n'a pas réussi pendant les playoffs. Donc effectivement, tu peux te poser des questions. Tu peux te poser des questions. Mais
je sais que ça va leur revenir là, d'éclat de Jaden McDaniels, parce que c'est quand même un des gros aspects de trash talking de cette série où le mec a littéralement parlé et backé ses propos. On l'a pris pour un fou en disant they are all bad defenders. On va y aller, on va se permettre. Le mec, le match qu'il fait hier. Alors on trouvait qu'il abusait notamment sur l'aspect, mais pas Aaron Gordon dans la phrase, s'il te plaît frérot, parce que Aaron Gordon c'est un des tout meilleurs défenseurs
de
la planète.
Hein,
exactement. Mais là, ce que fait Jaden McDaniels hier, c'est ouf. Le mec, t'avais l'impression que c'était easy. C'était easy de pouvoir punir ces Nuggets là. Et je suis choqué, comme toi. Parce que j'avais l'impression que c'était un match d'une équipe qui est allée pour la deuxième fois de leur carrière en play-off, les Nuggets.
Ouais, ouais.
Comment ça se fait?
Après, ce premier tour de play-off, faut le reconnaître aussi, ressemble beaucoup à leur saison régulière. Peut-être qu'on l'avait un peu trop oublié, nous. C'est-à-dire qu'ils ressemblent en tout point. C'est-à-dire que la défense, pas bonne. Des blessés au mauvais moment, c'est déjà ce qui leur est arrivé en régulière et c'est ce qui leur arrive là pour défendre.
Pas de chance.
Dans un game, c'est même pas le pas de chance, c'est juste c'est factuel. Et... un duo Murray-Jokic qui se donne bien en attaque, qui arrive à faire des trucs, mais qui effectivement de l'autre côté du terrain est archi ciblable.
Il faut percer la gueule.
Et qui là tombe sur des Wolves qui avaient un vrai plan défensif sur ce duo. Essayer de couper au maximum leurs relations, essayer d'empêcher Jokic d'être dans des vrais fauteuils à 3 points, essayer de gêner Jamal Murray derrière les dribble end-off, de l'obliger à être dans des pull-up les plus compliqués possibles. Et d'ailleurs, ça se voit. Jamal Murray, il tourne à 25 ou 26 points par match sur cette série. Les pourcentages, c'est l'enfer. Les pourcentages, c'est l'enfer.
Je sais pas si tu les as.
Bah, si je vais peut-être pas les. Si, je vais les avoir. Je vais les avoir en faisant comme ça là.
Quitte donc, à ce qu'on les file.
J'arrive.
Ouais,
j'arrive.
Pour Murray, pour Jokic.
Là. Jamal Murray sur cette série.
37%.
Il est à 36% au tir et 26% à 3 points. Et.
Ouais, je m'aurais.
Genre, il a été souvent poussé dans des tirs compliqués. C'est un joueur de niveau All-Star avec de l'expérience, à lui de ou de ne pas les prendre ou de travailler différemment pour en obtenir des shoots plus ouverts. C'est de sa faute.
Surtout que c'est un gars qu'on a vu en playoff qui était capable de fort élever son niveau de jeu.
Normalement, oui. Là, il l'a pas élevé. C'est ce que je disais tout à l'heure. J'aurais préféré le voir à un niveau All-Star pendant les playoffs que pendant la régulière. Tu vois, j'aurais préféré. Donc ça, c'est un vrai sujet pour les Nuggets qui va au-delà de toutes les considérations tactico-techniques. C'est-à-dire qu'à un moment donné, ok, on lui envoie de la bonne défense et il y a des trucs très intelligents faits de la part des Wolves pour gêner sa relation avec Jokic, pour qu'il soit dans des situations les plus inconfortables possibles. Mais oh, non, ne reviens plus nous saouler avec ouin-ouin, on ne dit pas que je suis All-Star et tout. Bah ouais, mais bon, là, c'est sûr que ça pique. Hein.
C'est
sûr
que ça pique. Là. Ça pique fort. C'était...
C'est lui qui a le plus raté sa série, hein, de loin, pour moi. Plus que Jokic, plus que Christian Brown même, limite. Parce que Christian Brown, il est quand même censé être moins fort.
Il est moins attendu. Il est moins attendu. Christian Brown, c'est cataclysmique. Hein, là, sur la série,
c'est
là,
cataclysmique, mais je veux dire, c'est un joueur, c'est un role player, quoi.
Tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que Murray...
C'est pas ton lieutenant, quoi.
Denver a gagné deux matchs. Murray, sur les deux matchs, est très très fort.
Ouais, ouais. Alors, est-ce que ça va bien, Murray arrive à jouer, ou est-ce que ça va bien parce que Murray arrive à jouer? Ça, on
sait
pas.
C'est la pull-up, tout à fait. Voilà. Je suis d'accord.
Alors,
mais
ce que je
que...
sais, c'est que quand c'est dur, Murray, il est pas là. Ça me fait chier.
Enfin.
Genre
voilà,
la Game 6
pas
hier.
Pas d'une manière générale. Hier.
Non mais... Ouais.
Et sur la série, je peux l'entendre. Mais c'est juste que je voulais
sur
vous
cette
dire...
Sur cette série, je
oui,
veux
voilà,
dire.
Parce que par le passé, Murray,
non,
quand
non,
ça a
non,
été
non,
chaud,
non.
il nous a
je
envoyé des pépites.
Je parle de cette série.
Oui,
là,
voilà.
Je suis en 2026. Ah. Il sort d'une série où, quand ça a été dur et que ça n'a pas glissé pour les Nuggets, non, et qu'ils auraient bien eu besoin d'un ou deux gros tirs qui rentrent, d'un N1, d'un mec qui va chercher des trucs et tout. Parce que lui, pour le coup, il n'avait pas un défenseur forcément élite sur lui. Pas toujours. Pas toujours.
Il y a eu
un peu de McDaniels, alors évidemment c'est relou pour
lui. Il y a eu un peu de McDaniels qui est très très chaud.
Mais sinon, il y avait des choses. Alors que Jokic, lui, il avait tout le temps de l'élite sur lui, normal.
C'est normal. Et d'ailleurs, pareil, je sais pas si t'as les pourcentages de Jokic, parce que par rapport à sa saison régulière, je peux dire que le pépère, moi je l'ai dit dans tous les sens, il y a un moment, il n'y a pas de deux poids deux mesures. Jokic a été moins bon que ce qu'il fallait sur cette
45%
série.
45% au tir, 19% à 3 points.
Frérot. Et d'ailleurs, juste, excusez-moi pour ceux qui ont vu le match, est-ce qu'on peut reparler des 7 dernières minutes de Jokic sur un match serré éliminatoire?
C'est nul.
C'est nul à chier.
Et c'est nul,
c'est nul dans
l'intention. Et là, moi, c'est là où vraiment je suis très déçu du Jokic Murray.
C'est nul.
C'est que malgré tout ce qu'on dit là, il y a quand même plusieurs matchs où ils étaient dans le match.
Mais oui, mais...
Et avec un peu de surplus, de mental, d'envie, de détermination, ce que les Wolves avaient, il y avait de temps en temps, et notamment dans ce Game 6, il y avait l'espace pour y être.
Il y a toujours l'espace, et ce qui fait que d'ailleurs cette défaite, elle est atroce, et que tu sais que Denver, en fait, s'était un peu plus remué. Il y a eu des conférences de presse où des journalistes ont demandé à Adelman « Est-ce que vous pensez qu'il y a eu assez d'investissement physique de la part de vos joueurs ?» Et t'avais l'impression que le mec disait « On va voir au prochain match, vous verrez, on est motivé. » Je suis désolé, là les joueurs, il y avait certains, t'avais l'impression qu'on était sur un match de mois de mars.
Oui, ça c'est un
grave.
Vrai problème.
Et par rapport en effet à cette fin de match, moi j'avoue...
C'est
j'ai...
le principal problème de cette équipe de Denver à mon avis, c'est que mentalement, depuis son titre... Elle n'a pas montré derrière mentalement la détermination des grandes équipes.
Bah,
moi, j'ai du mal. La défaite Wolves, ensuite la défaite Thunder, je trouve qu'il y a des vraies défaites mentales. Le Game 7 que Minnesota vient chercher chez eux, putain.
Alors, celui-là, il est hardcore.
Il est hardcore de fou.
Là où je mets juste un petit bémol, c'est quand on les voit l'année dernière se retrouver avec un changement de coach à 5 jours de la fin de la régulière et de faire le premier tour qu'ils font face aux Clippers, on a dit putain, ils ont de la résilience.
Je te dis pas qu'ils lâchent.
Ils ont de la résilience mentale.
Et justement, ils ont prouvé qu'ils en avaient. Hein? Mais là, ça fait plusieurs fois dans des moments clés où t'as l'impression, t'as cette espèce d'impression que genre c'est pas un moment clé pour eux.
Oui, voilà. Sur les 7 dernières minutes du match, bon bah pareil. Hein,
les Wolves, ça se voyait que c'était un moment clé pour eux. Hein.
Ouais, bah ils sentaient qu'en fait, si t'allais avoir un Game 7, ça serait foutu parce que t'allais te retrouver à Denver. Les 7 dernières minutes du match, encore une fois, on en a fait notamment un apéro en cours de saison, je sais plus si c'était un top 10, la des takes où moi j'ai pas envie qu'il y ait deux poids deux mesures sur Jokic. Un joueur de son niveau, légendaire, superstar, qui fait les 7 dernières minutes d'un match éliminatoire comme ça, il y a des mecs qui seraient mis plumes et goudron. C'est nul ce qu'a fait Jokic sur le Money Time hier soir.
d'un des matchs les plus importants là de sa carrière à Denver. C'est nul. Ça ne remet pas en question ce qui s'est passé en 2023. Ça ne remet pas en question le génie offensif de
c'était
ce mec.
Nul.
Mais juste, c'était nul. Et c'était nul offensivement sur les 5 dernières minutes du match. Et c'était nul défensivement sur combien de minutes il a joué ? 43 minutes. Allez, je t'en donne 38 mauvaises défensivement. Et donc, c'est un peu compliqué d'avoir du coup une série que tu peux remonter déjà que t'es dos au mur à cause d'un 3-1 lead parce qu'Adosunmu a pris chaud. Quand notamment le mec qui donne le ton, ça ne se passe pas avec un joueur encore une
il
fois.
Il donne
c'est
pas le ton, il donne pas le ton.
Mais il a pas donné le ton. Le patron n'a pas donné le ton.
Il donne pas le ton, c'est tout. Non, mais ça c'est indéniable. Lui, Jokic doit beaucoup plus donner le ton. Il doit montrer qu'il en a quelque chose à foutre surtout. Là, honnêtement, moi c'est vraiment, je répète, c'est en le point qui me déçoit le plus de ces Nuggets. Je reste persuadé que c'est un effectif qui doit pouvoir aller au titre. Et par contre, mentalement, ils viennent de me montrer la détermination d'une équipe mid. Vraiment. Du leader au role-player, tout le monde. Mais c'est, ça commence par les leaders. Jokic en tête. Jokic, là, tu sens que genre là, il est dans l'avion déjà. Il va voir ses chevaux, il en a rien à foutre. Rien à foutre. Et ça, c'est relou.
C'est ce qui fait que pendant des années, on s'est dit, entre guillemets, hein, haha, hi, ho, ho, il est trop drôle, t'as vu, il est fort et en plus, il s'en bat un peu et ça retourne juste faire de l'équitation. Et
c'est
on
l'impression
fait les mêmes
qu'on
et des
a. Hein.
C'est l'impression qu'on a. Et évidemment, c'est un ultra compétiteur qui se donne à fond. Il n'y a rien à dire là-dessus. Mais c'est vrai que quand tu vois ce genre de match et ce genre de série,
ce genre de
série globale, t'es en droit de te dire, ah, mais d'accord, mais si c'est pour faire des gestes incroyables et d'avoir des grosses statistiques, mais derrière, en fait... Tous les ans, il y a les playoffs qui débarquent et on se retrouve avec les mêmes éléments sur lesquels on va critiquer certains joueurs. Parce qu'on les attend des deux côtés du terrain ou parfois en attaque, on se dit on ne peut pas jouer avec un tel parce que ça devient trop compliqué en 2026. Ceux qui n'ont pas de shoot, ceux qui ont des difficultés à être réguliers. Et ceux qui défensivement, soit sont pâteaux, soit sont trop petits. Tu sais, de plus en plus maintenant, être un petit joueur et tenir sur un parquet, ça commence à devenir très compliqué si tu n'es pas vraiment côté élite comme on a pu voir avec des Chris Paul et compagnie. Et du coup, moi ça me vénère parce que on est passé par des sessions où on a vu par exemple du Dirk se faire clasher, c'était un joueur offensif incroyable, alors comparé à Tracy McGrady à la fin des années 2000, limite, parce que le mec n'était pas capable d'être bon. Et il y a eu aussi une manière d'entourer différemment Dirk qui fait qu'ensuite il y a eu la rédemption de 2011. Et je ne souhaite qu'une seule chose, c'est que Aaron Gordon retrouve la santé, parce que quand il a la santé, le mec, c'est incroyable, c'est le combo parfait avec Nikola Jokic.
Bah oui.
De un. De deux, qu'on se retrouve face à des vraies réflexions du management un petit peu autour de l'effectif, c'est-à-dire pas les trois meilleurs joueurs mais par la suite les gars qui font la différence dans ce genre de match et de situation, le coaching staff, parce que là Adelman, là je pense qu'il y a beaucoup de fans de Denver qui disent juste merci, il faut prendre la porte là.
Ouais, c'est possible,
merci
ça.
Pour l'intérim, mais
je
en fait là il faut passer
ça.
À un autre niveau. Et du coup ouais, tu te retrouves là avec un joueur légendaire et une franchise qui espérait là avoir sa fenêtre de tir, où la question, Alex, et je te la pose là maintenant, c'est cette fenêtre des Nuggets. Est-ce qu'elle est encore ouverte? Ou est-ce que quand tu vois ce qui se passe avec OKC, San Antonio, avec d'autres équipes qui se développent et avec ce qui se passe là, est-ce que tu ferais des gros changements là cet été à Denver? Elle est là la question. Est-ce que tu remets juste une pièce dans la putain de machine?
Je sais pas, je suis trop à chaud pour répondre. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la fenêtre est peut-être pas fermée. Est-ce que c'est via des changements d'effectifs et tout ? Parce que le problème, c'est que c'est toujours pareil en NBA. C'est que bon, bah, t'as le Thunder qui domine, qui est la meilleure équipe actuelle en NBA. T'as les Spurs qui montent fort, fort, fort. T'es pas du tout à l'abri de des Knicks, qui se trouvent un truc nouveau. T'es pas du tout à l'abri de, j'en sais rien, moi, les Rockets, c'est un truc qui clique. Tu vois, genre, voilà, de les Lakers qui construisent un truc de fou autour de Doncic. Tu vois, t'es pas du tout à l'abri. Donc, on sait que les fenêtres, elles sont pas grandes. Quand tu vois cette série, si des gens me disent j'ai l'impression que la fenêtre elle est déjà fermée, t'es obligé de les écouter. Le problème pour moi, c'est que je ne crois pas du tout que la fenêtre, parce que pour moi c'est une fenêtre Jokic. Et cette fenêtre, il y a un élément dedans qui est très important et qui est à mon avis l'important le plus important. C'est pas en changeant Tim Hardaway Jr. contre un vrai 3&D que tu changes la face de ces Nuggets. Ils ont des 3&D dans l'effectif, ils en ont. Ils en avaient même un qu'on connaissait pas. Spencer Jones, on le connaissait pas avant le début de la saison parce que on l'avait pas compté dans la rotation, parce que le recrutement de l'été était tellement bon que dans le 8, 9, 10, on pensait pas à lui. Alors qu'en fait, il a fait sa place dedans. Mais Pour moi, la vraie question, c'est est-ce que la fenêtre Jokic-Murray doit être fermée par les Nuggets? Est-ce qu'ils doivent vraiment étudier ce truc ou est-ce qu'il suffit de se dire peut-être un truc autour de Christian Brown, on va voir. Sincèrement, je n'y crois pas.
Eh ben, je t'avoue que là, la question que je
le
vois
le plus... Le petit ajustement, j'y crois pas.
La question que je vois le plus, c'est que ta phrase, c'est la même, mais avec un mot en plus, les gens se demandent si c'est la fin de la fenêtre Jokic, Murray, Gordon. Parce qu'il y a des vraies interrogations physiques sur Aaron Gordon. Et c'est pas malheureusement contre lui, parce que c'est un joueur incroyable quand il est sur le parquet, c'est Mister Nugget. Mais il y a des gens, et c'est normal, qui se disent « Merde, on a vu ce mec à un niveau incroyable, il peut revenir, etc. On lui souhaite, parce que quand ce mec est là, moi je l'adore, et c'est le complément parfait de Jokic. » Mais la question, elle est à trois têtes. Parce que c'est cette fenêtre-là, ils ont conservé notamment Jokic, Murray Gordon en disant « Fuck Michael Porter Jr., merci, au revoir KCP et d'autres garçons, on va trouver une manière d'ajuster. »
C'est pas Michael Porter Jr. qui aurait changé grand-chose à cette opposition ou c'est moi? Quand tu vois ce que tu es capable de faire sur le Game 6, là, Cameron Johnson qui rentre des tirs, en fait, du coup, concrètement, voilà.
Sur le match, je te confirme que ça n'aurait pas changé grand-chose. Sur la série, moi, je laisse les gens faire des what-ifs.
Toi qui parlais de défense, Michael Porter, quand même, c'était quand même pas non plus sa spécialité. Hein.
C'est pour ça que j'étais le premier à applaudir le changement. J'irai encore plus loin. C'est-à-dire que par rapport à ta question de fenêtre, moi, je souhaite que Aaron Gordon revienne en santé et qu'à ce moment-là, tu puisses avoir quand même une continuité, parce qu'on sait que les équipes championnes NBA, elles ont de la continuité. Elles reviennent, elles passent par des trucs. On a cassé les Spurs pendant des années en disant genre « Ah, on sait pas si ça le fait. » Derrière la faute de Ginobili sur Nowitzki, derrière le coup de pété de Ginobili face aux Grizzlies, derrière le 3 points de Ray Allen, il y a eu des remises en question et il y a eu des manières aussi d'entourer
différemment. Ils n'ont pas forcément changé l'effectif tellement. Hein.
Ils ont gardé une forme de continuité en faisant des petits ajustements pour savoir comment faire. Et je trouve, à titre perso, et je prends ce rendez-vous face caméra avec les fans de Denver, que s'il y a un changement de coach et si on construit une équipe défensive, ce sont deux ingrédients sine qua non pour aller chercher la bague.
Mais moi, je ne comprends pas le coup de l'équipe défensive, parce que du coup, tu veux enlever Jokic ou Murray alors?
Non.
Bah, donc, à partir du moment où tu as Jokic et Murray, il te faut des mecs qui sont censés capables de défendre et de mettre des trois points autour.
Aaron Gordon en santé?
Ouais, c'en est un. En tout cas, il l'avait.
Peyton Watson, est-ce que tu le prolonges?
Voilà, c'est une question, parce qu'on va voir le prix.
Grosse question.
Cam Johnson correspond au profil.
Soit c'est lui, soit
il
Cam
correspond
Johnson,
au profil, on va dire, tout du poste 3. Voilà. Spencer Jones a montré qu'il pouvait correspondre au profil.
On va encore plus là-dedans. Valanciunas, qu'on a applaudi la signature,
ouais,
voilà, est devenu injouable.
Valanciunas injouable dans la série de playoffs, c'est pas une grosse surprise.
Non, mais c'est dommage.
Oui, c'est dommage. Christian Brown, avant la saison, on pensait tous que c'était le profil.
Ouais.
Bon, bah à un moment donné, ça veut dire que l'effectif, il tenait quand même la route, quoi.
Il était capable de tenir la route,
mais
il faut aller encore plus loin.
Je veux bien voir ce qu'ils peuvent faire pour aller plus loin en mieux, moi.
Bah, les fans de Denver, dites-nous, mais en tout cas là ça sent les vacances. Pour eux là, il va falloir je pense qu'il y a plein de gens, moi je l'ai vu sur les réseaux, à qui j'ai demandé de sortir les braquettes, parce qu'il y avait beaucoup, hein. On était à Nantes.
Ah bah, moi je les avais champions, moi.
Et c'est normal. C'est normal quand
parce que quand tu vois cette série, ça veut dire que je m'étais quand même
sacrément
planté.
C'est normal de les avoir dans les favoris, tu vois.
Oui, dans les favoris.
Et c'est là que c'est choquant, c'est qu'en fait Denver là, ils sortent pas. En fait, quand tu regardes ce qui se passe récemment avec les Nuggets. OK, t'as le titre de 2023. Moi, là où j'ai de la tristesse pour eux, c'est qu'il y a eu de la blessure de Aaron Gordon et il y a eu de la blessure de Jamal Murray. Donc, Jamal Murray, c'était 2 ans auparavant, quand notamment vous, les Suns, vous les sweepez, je crois. Quand il se fait le... C'était quoi? C'était ligament croisé ou tendon d'Achille, Nugget Suns, en demi-finale?
En 2000...
Parce que vous allez jusqu'en finale, j'imagine.
En 2021?
2021? Oui, c'est 2021.
Ouais. Où Jamal Murray, je sais plus ce qu'il a comme blessure. C'est le genou, je crois.
Mais Jamal Murray n'est pas là pendant 1 an et demi, je crois, un truc comme ça.
Ah oui.
Donc, tu as Jamal Murray qui a été blessé. Ensuite, tu as Aaron Gordon là, qui est en train de connaître des pépins de santé. Des pépins de santé qu'il avait en play-off l'année dernière. D'autres pépins de santé qu'il a cette année en play-off. Je me demande comment ça va se passer pour Denver. Et j'avoue que si tu regardes en effet les wagons San Antonio OKC se développer, tu te dis « Fuck, c'est sur quel bouton appuyer en fait ?» Sur quel bouton appuyer? Je ne sais pas.
Bien sûr, je suis d'accord.
Et c'est ce qui fait que là, la question que j'allais te poser, c'est dans l'intégralité de la fenêtre de Jokic qu'on est en train de voir là et qu'on est en train de vivre. Qui est donc un joueur, là on discute top 15, top 20 all time, vous le classez où vous voulez, top 10, c'est pas mon problème. Cette dégringolade qu'on vient de vivre là, à chaud, ça se classe où dans le bordel qu'on a vécu avec ces Nuggets là? Parce que t'as le game 7 qui est perdu contre Minnesota, qui est bien haut quand même. Hein. On a eu Portland aussi qui les a terminés avec CJ McCollum, c'était à l'époque, hein, mais... Il y a eu des grosses désillusions pour les fans des Nuggets, quoi.
Bien sûr. Mais c'est aussi... Oui, bon, je sais pas, on classera les désillusions de la carrière de Jokic, bien sûr, pas de problème.
Ça fait une grosse page là sur le site.
Ouais, ouais, bien sûr, bien sûr. Maintenant, est-ce que Jokic il a envie de se remettre en question? Moi, je suis même pas sûr. Est-ce qu'il en a quelque chose à faire? Je pense que oui, parce que c'est un compétiteur, mais en tout cas, il l'a pas montré sur le terrain. Sur le terrain, moi, c'est ça qui m'a le plus dérangé hein, de Jokic là. C'est là, sur le terrain, dans le Game 6, quand ils se font manger, t'as pas un sentiment de révolte de Jokic? Il a. Ça l'énerve plus que Jaden McDaniels mettre des layups en fin de match que de se faire fumer dans un game 6 limite. Ça n'a aucun sens.
Pas de découvert.
Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les mecs ont lâché mentalement trop tôt? Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'est pas au courant dans ce vestiaire qui, je le répète, pour moi, d'un point de vue tactico-technique, est vraiment nickel? Vraiment. Je dis pas qu'il n'y a pas des trucs mieux à faire, mais franchement, ça va pas être facile. Vous allez voir. Alors c'est quoi? C'est l'absence de Gordon et Watson. Genre, c'est insurmontable pour ce groupe? Ok, pour ce coach? L'angle du coach.
Au secours.
L'angle du coach peut-être.
Au
allez,
secours.
Allez, ok.
Au secours la phrase. Hein.
Bah non, mais c'est ça, mais c'est pour ça.
C'est au secours la phrase.
Donc, il y a des éléments qu'on n'a pas tout de suite à chaud. Ce qu'on sait, c'est que les Nuggets ont failli. C'est eux qui ont failli. Pour moi, ils ont plus. Les Wolves ont fait ce qu'il fallait. Ont fait une très grande série. Mais malgré cette très grande série des Wolves, je pense que les Nuggets auraient pu faire beaucoup mieux et passer. Mais vraiment.
Ouais, ouais.
Vraiment, je le pense.
Et d'ailleurs, la carte. Management, elle a été nettoyée l'année dernière. Il y a un nouveau board qui est venu, qui a fait les moves qu'on a vus là, justement, l'été dernier. Donc, moi, je leur donne du crédit, c'est-à-dire continue à travailler.
Grave.
Continue à travailler. Attendons les moves de cet été. Moi, ouais. ils m'ont plutôt séduit sur les moves qui ont eu lieu l'été dernier. J'ai envie de voir encore mieux. J'ai envie de voir encore plus de culot. Oui, ok, c'était un choix, Michael Porter Jr., mais on peut dire ça s'est bien passé, mal passé, mais en tout cas, c'est un choix. Et là, il faut continuer à travailler avec ce management-là. Donc, tu ne peux pas toucher à la carte management. Tu n'as pas demandé à ces gars de bouger. Ça a déjà changé l'année dernière.
Ils ont fait un excellent recrutement.
Et ils ont fait un bon recrutement. Donc, il faut continuer là-dessus. Je pense que coach Adelman, je ne sais pas s'il passe là l'été.
Et puis surtout, les joueurs aussi. Moi, j'espère que les joueurs vont avoir envie de se remettre en question. Parce que la vraie différence là entre ces Wolves et ces Nuggets, c'est bien évidemment la qualité de la préparation. Ça se voit à l'entame du Game 6. Et aussi... Là, un truc qui peut être décevant, et je sais pas à quoi c'est dû, parce que pour moi, les Nuggets sont vraiment des joueurs avec du bon QI basket. T'as la sensation que les Wolves, les joueurs, que Rudy Gobert, Jaden McDaniels, Julius Randle, Nazrin, même le jeune Terrence Shannon Jr. et tout, t'as la sensation que dans leur tête, il y a un bon plan de jeu à exécuter, que les choses sont claires, que si ça se passe pas tout à fait comme le plan de jeu, ils ont dans leur tête les alternatives et tout, donc mieux préparés, et aussi plus capables de s'ajuster eux-mêmes en cours de match. Genre là, les joueurs aussi des Nuggets, genre ok, on va peut-être leur changer leur coach, on va peut-être faire quelques modifs de recrutement et tout. Faudrait pas que ça soit un moyen pour Jokic Murray notamment de dire bah ouais c'est clair, attends vas-y change-nous un truc ou deux autour, mettons un autre coach et repartons de la même manière. Il faut qu'ils prennent sur eux le fait que ok, ils ont fait un run complètement fou en 2023, ils ont une bague, mais en fait depuis 3 ans, ils se comportent pas comme des champions en playoff. Pas vraiment. Il y a des sursauts, mais là, ça fait plusieurs fois qu'il y a des choses qui leur coûtent l'élimination. À chaque fois, ça leur coûte. Hein. Bim, éliminé. Cette série est pas bonne et tu dégages.
Il y a des fautes, t'as pas de chance. Moi, j'essaie de... Il y a des trucs, je suis d'accord au niveau comportemental.
Ah, quand même. Hein.
Non, mais tout à fait. Mais
ils ont raté. Non, mais il y a le comportement. Il y a même, c'est comme ça, c'est le sport de haut niveau. Ils ont raté plusieurs gros rendez-vous.
Oui, bien sûr.
Plusieurs années de suite.
Voilà. Parfois, juste, c'est pas ton temps aussi. C'est-à-dire que quand il y a eu les fenêtres qui étaient ouvertes pour Denver, j'en reviens à Murray qui a été blessé et ensuite, là, Gordon qui a eu des soucis parce que c'était maintenant que ça se passait. Ça va trop vite, la NBA. Combien de fois on l'a répété, Alex? Ça va trop vite.
Bien sûr, bien sûr.
Si ça se trouve, les Nuggets, j'adore Jokic et tout, et Murray, la saison régulière, on va voir ce qui va se passer cet été, mais si ça se trouve, on va se regarder, on va dire. Bon, vas-y, les Nuggets au premier tour l'année prochaine. Ah, ils rejouent encore les Wolves. Ah, les Wolves, on la connaît la match-up, les mecs. C'est une rivalité incroyable, mais il va encore suffire de leur rentrer dans la gueule. Et en fait, ça va le faire
et
pour...
Et donc, c'est bel et bien aux joueurs de se remettre en question là-dessus.
Ça dépend quels joueurs sont encore là.
Il y en aura beaucoup qui seront là, tu vois. Si c'est pas le cas, c'est une erreur. Clairement, je le dis, je préfère le dire tout de suite. Une erreur.
Eh ben, très hâte de suivre cet été du côté des Nuggets. Malheureusement, les copains, voilà, c'est l'heure de l'été. Le seul cadeau que je peux vous faire... C'est ce magnifique t-shirt que vous pouvez retrouver.
Et alors, 1, 2, 3, Cancun.
1, 2, 3, Cancun, il est disponible.
On n'a pas fait le 1, 2, 3, son bord.
Non,
Mais on pourrait.
Ça aurait pu être drôle.
Absolument. Vous pouvez foncer tout de suite sur le shop de Trash Talk. Il est disponible. Voilà, c'est le petit cadeau de.
Ça, c'est le dos hein, que Bastien vous montre.
Absolument, à l'avant.
Et à l'avant, il y a un petit suite, Trash Talk.
Voilà, vous avez un petit Trash Talk voilà, juste là, tout ça. Joli. Et à l'arrière, vous avez un, deux, trois Cancun magnifiques. Regardez ça. Si vous souhaitez, si vous connaissez un fan des Nuggets et que vous voulez lui faire un beau cadeau, et ben voilà, il est disponible. Ça continue à régaler. Voilà, on voulait offrir ça sur les playoffs 2026. Et je pense qu'on va le remettre plusieurs fois. Hein, parce que là, là, on se marre. Mais Alex, il est arrivé au studio, il m'a dit on en parle quand des Celtics Game 7
c'est pas rassurant du tout hein,
au
cette
secours avec Tatum qui est blessé
ouais,
et tout.
Non, c'est voilà, pas rassurant du tout. Après les Sixers font kiffer de ouf.
Ah, de ouf, de ouf, de ouf. Voilà. Game 7, alors du coup oui, je donne à la fin les éléments d'infos importants. Pif paf pouf, on a déjà un Game 7 sur les certains au moment où on vous parle. Boston Philly, c'est samedi soir.
Donc, c'est dans la nuit de samedi à dimanche, c'est 1h30 du mat.
1h30 du mat, direction Boston. On va voir ce que ça donne. Ensuite, ce soir, vendredi, on a trois matchs. Orlando-Détroit à Game 6, à Orlando. Toronto-Cleveland à Game Toronto. 6. Et Houston-Lakers, Game 6 à Houston. Si une de ces équipes force le Game 7, c'est-à-dire Lakers, Cavs ou Pistons, pardon, Raptors, Pistons ou Rockets, le match 7 aura lieu dimanche. On n'a pas encore l'horaire.
Non.
Il y aura Game 7.
Il y en aura peut-être un bon horaire d'ailleurs.
Voilà.
Peut-être, ça dépend combien il y en a, je pense.
Donc, rendez-vous évidemment ce soir pour les autres matchs de NBA. Et dites-nous un peu là, fans des Nuggets, comment est-ce que vous voyez les choses ? Déjà sur ce qui vient de se passer, et puis sur la suite, parce qu'il y a du joueur légendaire. Il y a un duo qu'on a quand même classé aussi assez haut en termes de longévité et de playmaking ensemble. Hein. Murray Jokic, c'est quand même, ça fait partie de la dernière décennie de NBA.
Ils n'ont pas été au rendez-vous de cette série. Hein.
Et là, c'est très très chaud. On vous fait des gros bisous. Courage aux fans des Nuggets.
Ciao.
Et bravo les Wolves, on se retrouve dans la playoff face aux Spurs.
Exactement. Ciao. Bisous, ciao.